Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, l'avenir des robots, la charte de la Terre vue par des artistes et un théâtre dédié à la science. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science, aujourd'hui un sujet sur le Père Noël. Attention, il faudra éloigner vos enfants du poste car nous allons vous révéler des choses intéressantes au sujet de l'identité magique du Père Noël. Et c'est la psychanalyste Claude Almos qui sera au bout du fil pour nous en parler. Stéphanie Texier est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités, la physicienne et directrice du théâtre de la Reine Blanche, Elisabeth Bouchot, le metteur en scène Angelo Corda, Anne de Hay et le roboticien Rodolphe Gélin. Bonjour à tous les
bonjour,
quatre.
Bonjour.
Anne de Hay, je découvre avec votre ouvrage Hay for Degrees Heart qu'il existe une charte de la Terre, un texte aussi important que la Déclaration des droits de l'homme et qui est pourtant quasiment inconnu du grand public.
C'est oui, c'est très curieux. C'est un texte qui fait suite à la charte de la nature, ouais. Qui est le fondement de toute la réflexion en fait qu'on peut avoir et que toute la communauté on va dire scientifique et économique sur laquelle sont basées leurs réflexions, c'est un texte synthétique magnifique
absolument
et plein de profondeur.
Et vous avez interrogé des artistes sur cette charte avec Hay et on en parle dans un instant avec vous. Rodolphe Gélin, vous publiez avec Olivier Guilhem Le robot est-il l'avenir de l'homme à la Documentation française. Est-ce que ces machines vont prendre de plus de place dans nos vies? C'est une évidence?
C'est une évidence, oui. Ils vont nous rendre de plus en plus de services et on va pouvoir leur faire exactement la place qu'on a envie qu'ils aient auprès de nous, des compagnons, des amis, juste des outils.
Donc de plus en plus de questions aussi qui vont
absolument.
Se poser.
Absolument.
Elisabeth Bouchot, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice du Théâtre de la Reine Blanche à Paris, qui propose une programmation très axée sur la science. C'est la physicienne que vous êtes qui a eu envie justement de mettre de la science sur scène.
Oui, j'ai deux amours, la physique et le théâtre, depuis presque toujours. Ouais. Et donc j'ai eu envie que mes deux passions se rejoignent.
Voilà, et vos deux passions se rejoignent entre autres avec ce spectacle que vous mettez en scène, Angelo Corda. Bonjour à vous, ça s'appelle Mileva Einstein, donc au Théâtre de la Reine Blanche. C'est une histoire qui tourne autour de la femme d'Albert Einstein et des relations avec le Vatican.
Tout à fait. J'ai voulu mettre en lumière plutôt la première femme d'Einstein que l'histoire a totalement oubliée. Et ils ont maille à partir avec le Vatican qui veut contrôler les idées d'Einstein.
C'est ça. Ça nous rappelle des vieux souvenirs, hein, déjà ouais. Liés à Galilée, etc.
Tout à fait.
Et ça, vous en avez fait une version 20e siècle. Science, sexe, violence et manipulation au cœur de ce spectacle qui est à voir jusqu'au 30 décembre. Allez, on se retrouve tous dans un instant pour discuter de ces sujets. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée exceptionnellement aujourd'hui, on ne pourra pas recevoir vos messages. Faut-il vraiment mentir au sujet du Père Noël? Question posée aujourd'hui à la une de la science.
Tu l'as déjà vu, Père Noël?
Non, j'ai vu des messieurs seulement qui s'étaient déguisés en Père Noël.
Est-ce que tu as déjà vu Père Noël?
Oui, un jour. Avant, je l'avais vu, il se promenait dans la rue.
Comment il est?
Il a une barbe blanche avec une capuche rouge, un manteau rouge, des bottes rouges, il est beau.
Et deux psychologues anglo-saxons qui publient une drôle de réflexion dans la revue The Lancet Psychiatrie sur ce qu'ils appellent le mensonge de trop. Selon leur théorie, mentir au sujet du Père Noël reste un mensonge et ça n'est pas une bonne idée pour la construction de l'enfant. Pour discuter de ce sujet, nous sommes avec la psychanalyste Claude Almos. Bonjour.
Bonjour.
Alors sur notre sollicitation, vous avez lu ce papier. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé, Claude Almos?
Je pense que c'est très bien de rappeler que mentir aux enfants est une chose grave, hein. On ment souvent aux enfants en pensant que c'est pour leur bien, on leur ment sur leur origine, on leur fait croire que leur beau-père c'est leur père, on leur ment sur la mort de leur grand-mère en disant qu'elle est partie en voyage, sur le fait qu'ils sont adoptés, on leur dit pas, etc. Ça c'est destructeur. Mais par contre, je pense que le Père Noël, c'est pas un mensonge. Le Père Noël, c'est une invention poétique pour incarner l'amour des parents, c'est pas un mensonge, et donc je pense que cet article mélange un certain nombre de choses.
Si on devait faire la différence entre un mensonge et le Père Noël, comment on l'a fait
selon vous ?
Bah, le mensonge, c'est la définition en français du mensonge, c'est une intention délibérée de tromper l'autre. C'est un truc qu'on dit pour tromper l'autre. Quand on dit à l'enfant que le Père Noël existe, on n'a pas du tout l'intention de le tromper. C'est une façon d'incarner quelque chose qu'on n'arrive pas à lui dire autrement, en général pour lui fabriquer du merveilleux, du rêve, qui est aussi du rêve et du merveilleux pour les parents. Mais ça n'est pas du tout dans l'intention de le tromper.
Alors, quand on parcourt un peu le papier, on trouve cette phrase « Un enfant qui découvre tardivement que ses parents lui ont menti pendant des années peut subir un choc important et traumatisant ». Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, j'ai jamais vu d'enfants qui se sentent trahis parce qu'on leur avait parlé du Père Noël. Quand ils se sentent trahis, c'est parce que par ailleurs, on leur a dit que les petites filles naissaient dans les roses et les garçons dans les choux et qu'on leur avait tellement menti sur d'autres choses que le Père Noël, c'était une goutte de trop. Mais dans toute ma carrière, j'en ai pas rencontré qui, en tant que tel, pensent que le Père Noël les avait traumatisés. Ça, ouais. Sûrement pas.
Ce sera un sacré cas d'école.
Ah bah oui, mais enfin, jusqu'à maintenant, personne ne l'a publié. Ça ne doit pas être par hasard, quand même. Hein.
Donc, mentir au sujet du Père Noël, en tout cas, ça n'est pas grave, vous le confirmez.
Mais ça n'est pas un mensonge. Quand Éluard nous dit que la terre est bleue comme une orange, Paul Éluard n'est pas un menteur, c'est un poète. C'est une invention poétique pour incarner quelque chose qui est vrai, qui est l'amour des parents, l'envie qu'ils ont de faire plaisir à leurs enfants, cette espèce de sentiment très fort comme ça. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que ça peut être important pour les choses abstraites de les expliquer aux enfants d'une façon plus concrète, de les incarner. Quand on travaille avec des enfants, on sait bien, par exemple, qu'on leur dit des fois, tu vois, c'est comme... Et puis on prend un exemple de quelque chose de très concret parce que ça, c'est plus facile à comprendre pour eux. Et la meilleure preuve de ça, c'est que les enfants, quand ils n'ont plus besoin de ce support concret de quelque chose d'abstrait, ils laissent tomber. Voilà, ils cessent d'y croire.
Comment vous voyez un peu cette sortie de ces deux psychologues ? Est-ce que dans l'air du temps, il y a un nouveau questionnement autour du mensonge, autour du magique, du merveilleux ?
Je pense que ce qu'il y a surtout dans notre époque, c'est qu'on oublie de plus en plus ce qu'est l'enfance. Et on l'oublie, et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une psychiatrie qui ne tient plus compte de la construction des êtres humains, puisque la psychiatrie qui vient des États-Unis, la psychiatrie du DSM, c'est une psychiatrie qui prend les symptômes. Si vous, moi, Mathieu, avons peur de l'eau, bah, c'est le même symptôme, donc on va nous donner une thérapie courte pour l'éradiquer, ou bien des médicaments, puisqu'on sait que cette psychiatrie-là est quand même faite au départ pour vendre des médicaments. Mmh. La psychiatrie classique et la psychanalyse s'occupaient de chaque personne comme d'un individu particulier, singulier. Donc on se demandait qui vous étiez pour avoir peur de l'eau, pourquoi vous en aviez peur, comment c'était construit, qui j'étais, etc. etc. Et en fait, quand Freud découvre l'importance de l'enfance, il ne la découvre pas comme ça un beau matin en se lavant les dents, il la découvre parce qu'en travaillant avec des adultes, il se rend compte, en les laissant parler, que leurs problèmes prennent racine dans leur enfance. Et du coup, il se rend compte de l'importance considérable de l'enfance. À partir du moment où on n'écoute plus les gens un par un, on oublie l'importance de l'enfance. Et ça a des conséquences autrement plus graves que le Père Noël. Ça a des conséquences, par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui, on assimile de plus en plus les maladies des enfants à celles des adultes. Par exemple, on va vous parler du burn-out d'un enfant de 6 ans, ce qui est totalement aberrant. Et c'est grave pour les enfants, c'est grave pour leurs parents, et c'est grave pour la clinique.
Mais Claude Almos, puisque vous avez lu justement cette étude, sur quoi s'appuient ces deux psychologues pour dire que finalement, parler du Père Noël et révéler la vérité aux enfants, ça n'est pas une bonne idée alors ?
Mais parce qu'ils assimilent ça à un mensonge, c'est-à-dire qu'ils considèrent justement, parce qu'ils n'écoutent, ils n'ont pas la clinique, l'habitude de la clinique avec les enfants, ils considèrent que les choses qui ne sont pas vraies sont des mensonges. Les enfants ont besoin qu'on leur explique, à un moment donné, en thérapie on fait ça souvent, la différence par exemple entre ce qui est vrai pour de vrai et ce qui est vrai dans la tête. Il y a des choses qui sont vraies pour de vrai, ok. Il y en a d'autres qui sont seulement vrais dans la tête, parce qu'on les souhaiterait, par exemple. Hein, c'est le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et un enfant peut vous raconter ça comme une réalité. Et c'est important. Je me souviens d'un petit garçon en thérapie. Je lui avais fini par lui dessiner deux boîtes, une rouge, une bleue. Le rouge, c'était les choses vraies pour de vrai. La bleue, c'était les choses qui étaient seulement vraies dans la tête. Et au bout d'un moment, je lui disais, bon, ce que tu me racontes là, on lui avait beaucoup menti à cet enfant. C'était un enfant qui avait été maltraité, on lui avait beaucoup menti. Donc, il mentait comme on lui avait menti. Et donc, je finissais par lui dire, on le met dans quelle boîte ? pour de, c'est vrai pour de vrai, vraiment. Et voilà. Et mais ça veut pas dire que ce sont des mensonges. C'est l'imaginaire de l'enfant. Et quand on oublie l'enfance et on oublie la spécificité de l'enfance, on oublie cette particularité et cette richesse de l'imaginaire de l'enfant, qui est une richesse et en même temps à quoi il faut mettre des limites et de temps en temps, encore une fois, faire une différence avec la réalité. Mais ça n'a rien à voir avec le mensonge. Et l'enfant, d'ailleurs, ne s'y trompe pas.
Une dernière question, Claude Almos. Comment il faut réagir face à un enfant qui arrive de l'école et qui vous dit « le Père Noël n'existe pas » Est-ce qu'il faut protéger le mythe ?
Mais bien sûr que non. Un enfant qui vous dit ça, il faut lui dire « ah bon, et alors, oui, pourquoi tu penses ça ? Avant tu croyais qu'il existait, maintenant tu penses pourquoi ?» En général, ça se passe parce qu'un copain lui a dit, et c'est important, c'est les relations avec les autres, que bah, finalement c'était pas vrai. Et on peut le féliciter parce qu'il est en train de grandir. On lui disait « tu vois, quand tu étais petit, tu avais besoin de croire au Père Noël, et ben maintenant tu es devenu grand et tu as plus besoin d'y croire, et c'est formidable, et joyeux Noël !»
Ah ben, c'est ce qu'on vous souhaite également, Claude Almos. Bonne fête de fin d'année à vous. Et merci pour votre éclairage. On peut donner le titre de votre dernier ouvrage, peut-être, Claude Almos ?
Oui, c'est « Savoir-être, une psychanalyse à l'écoute des êtres et de la société ».
Publié chez ?
Chez Fayard.
Merci beaucoup à vous et bonne fête. Et Axel, à très bientôt.
À lundi, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un poisson qui n'a que faire de la pollution urbaine. Darwin disait que la sélection naturelle était d'autant plus rapide que la pression environnementale était forte sur une espèce. Voici un cas d'école avec les poissons combattants de la côte est des États-Unis. Les chercheurs ont séquencé l'ADN de 400 spécimens différents vivant en zone polluée ou non et ont remarqué une diversité génétique grandissante et une adaptation très rapide des poissons exposés aux polluants. Certains spécimens sont 8000 fois plus résistants à la pollution que d'autres, preuve d'une évolution très rapide avec l'apparition de mutations protectrices chez certains groupes, un coup de chance dû au hasard qui n'est malheureusement pas valable pour toutes les espèces de la région. On connaissait les lames de graphène, les tubes de graphène, et bien voici maintenant l'eau de graphène. Le graphène est la star des matériaux et pourtant cette couche unique d'atomes de carbone reste encore difficile à isoler. Et pour contourner le problème, des chercheurs français ont imaginé une stratégie de production par voie liquide. L'idée concrétisée ici était d'intercaler des ions potassium en solution dans une structure de graphite pour la dissoudre et obtenir ces fameuses couches uniques. L'eau de graphène fraîchement inventée est présentée comme la première formulation de graphène en couche unique stable à l'air et facilement manipulable. Un pas pour l'industrie et pour les coûts d'utilisation du graphène. Et puis on termine avec la photo d'un plumage de dinosaure. Des chercheurs canadiens publient dans la revue Cells l'étude inédite d'une queue de coelurosaure parfaitement préservé dans de l'ambre. Le fossile constitué des 8 dernières vertèbres de la queue de l'animal permet pour la première fois l'étude fine en 3 dimensions de la couverture de fines plumes qui recouvrent l'extrémité de la queue, brune sur le dessus, blanche sur le dessous. Cette forme de plumage primitif est une aubaine pour les scientifiques qui comptent essayer de percer l'ambre pour étudier le microcosme emprisonné entre les plumes. Une photo à voir sur le Facebook de la Tête au Carré. Et le club, c'est dans un instant. Bass, 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 bass. I'm a swagger man, rolling in my swagger van, from the People's Republic of Swaggerstan. Politician, yeah, history's just a competition. Do you wanna sign my petition? It's for the people with dedication. Some people fuck it up, take vacations. Refugees learn about patience. Sometimes I have many visions. I don't even need a religion. I'm a new frontier, horizons. Yeah, sell this shit to the thousands. Even aliens see the presentation. Yeah, tune up the dial on the station. I'm thinking me sort of like Tarzan. And I'm singing this beat, salvation. I'm free.
put it on the phone. If you don't catch it, then baby, I'm gone. Send me your money and I'll send you my song. What you get is perfect, it took me lifelong. Lara Croft is tough when it comes to my stuff. She's made up, I'm real, that's enough. Dinosaurs died out and I'm still strong. A little bit of fun, yeah, I don't see it wrong.
Freedom avec M.I.A.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
L'avenir des robots, la charte de la Terre et puis un théâtre dédié à la science. Le club cet après-midi avec mes invités, le roboticien Rodolphe Gélin, la physicienne et directrice du théâtre de la Reine Blanche Elisabeth Bouchot, le metteur en scène Angelo Corda et donc Anne du duo Anne et Julien. Et c'est justement avec vous que nous allons commencer. Anne de Hay. Alors Hay, c'est pas votre nom de famille.
Non, mais ça pourrait.
Ça pourrait.
Non, ben, Non, c'est le nom du projet artistique qu'on a décidé de monter il y a à peine 7 ans aujourd'hui.
Ouais.
Une revue d'art, ça c'est la base, le socle, les racines et ensuite les expositions. Donc on est commissaire d'exposition pour montrer l'art qu'on publie et après les spectacles, puisque là on s'approprie l'univers des autres pour prendre le pouvoir.
Ouais, donc Hay, alors prendre le pouvoir en douceur évidemment.
Bien sûr, toujours.
Hay, évidemment, c'est cette revue et puis c'est pour les auditeurs qui seraient allés au musée du Quai Branly par exemple, l'exposition Tateur Tatoué qui a eu un succès colossal et qui maintenant est en tournée mondiale. C'est ça, vous êtes dans les plus grands musées du monde aujourd'hui.
Ben oui, ça va tourner jusqu'en 2020, là, apparemment.
Ouais. Quel est l'ADN, justement, de votre travail? Qu'est-ce que vous défendez comme style d'art?
Nous, ce qu'on défend, c'est ce qu'on a appelé, sous une grande bannière, outsider pop. Mm-hmm. Ce sont tous les arts qui rencontrent, on va dire, l'art savant avec l'art populaire, et entre les deux, à mi-chemin, toute la force et la profondeur des contre-cultures mondiales.
Ouais. Angelo Corda, vous connaissiez justement le travail de Hay, hein, vous êtes arrivé, Anne vous a donné la revue, oui, mais vous connaissiez déjà ce travail.
Je connais, j'ai vu deux expositions déjà, je vous suis depuis quelques temps.
Et l'art figuratif contemporain vous touche?
Oui, ouais. Beaucoup, spécialement le tatouage.
Ouais, avec cette
ça en fait partie,
exposition donc. Et votre actualité justement, Anne, c'est ce hors-série Hay 4 Degrees Heart qui sort aux éditions Ankama 619 et qui est prépassé par Jean-Claude Amezen, il faut quand même le signaler, avec des textes en français et en anglais. Et donc au cœur de ce numéro, un document, c'est cette charte de la Terre, on en parlait très vite tout à l'heure, qui est un petit peu à ce que la déclaration des droits de l'homme est à la nature.
Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce livre, parce qu'en fait nous on se situe, on est vraiment des citoyens lambda, et ce qu'on sait faire, c'est parler d'art. On sait faire des livres, on sait exposer, on sait maintenir une relation avec les artistes et nourrir notre vie en fait de tout ça. Et il y a à peu près un an, alors qu'on est assez, on va dire qu'on est assez efficace dans ce qu'on fait professionnellement, il y a un an, Julien et moi nous sommes dit qu'il devenait assez intenable de ne pas nous engager sur ce territoire-là, puisqu'on est, comme beaucoup de citoyens, tout à fait entre l'idée d'être catastrophé devant le spectacle qu'on nous donne de ce que devient la Terre et son vivant, et cette idée de mettre au service notre efficacité. Mm-hmm. Donc on a cherché le squelette, comment est-ce qu'on pouvait saturer, j'ose dire, tout ça, et en cherchant, on a mis 8 mois à trouver cette charte de la Terre. Ouais. Donc nous on l'a découvert.
Comment vous êtes tombé dessus?
Bah, en cherchant, vous savez, on est des anciens journalistes quand même, on tire des fils et ça tombe. Mm. Et en fait on s'est lu les rapports du GIEC, on s'est lu tout ce qu'on pouvait lire en termes de documentation. Et puis, bah voilà, on a découvert enfin cette charte. Ouais. Pour vérifier sa véracité, on l'a montrée à Jean-Claude Amezen en disant, ouais, mais on ne connaît pas ce texte, on le
connaissait-il, non, pas Jean-Claude,
du tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est parti dans l'aventure avec nous. Ouais. En fait.
Qui le connaissait autour de la table, justement?
Non, personne.
Non, moi non plus.
Il faut lire d'abord ce qui est un document d'abord littéraire, poétique, magnifique. Hein.
Il est vraiment impressionnant puisqu'il est complètement populaire, il est très synthétique, il ne fait que 4 pages, il est très facile à lire et il englobe, il embrasse, il embrasse absolument toutes les problématiques en fait. Et surtout, il offre des solutions.
Ouais. Les premières lignes, justement, l'humanité fait partie d'un vaste univers en évolution, la Terre, notre foyer, est vivante et abrite une communauté unique d'êtres vivants. Les forces de la nature font de l'existence une aventure exigeante et incertaine, mais la Terre a fourni les conditions essentielles à l'évolution de la vie. Voilà comment on démarre ce texte.
Et donc on a décidé, en fait, avec Julien et Zoé, qui travaillent avec nous, on a décidé de faire connaître ce texte.
Qui l'a écrit? À quel moment d'ailleurs il est né?
Alors il a été écrit par tout un collectif et scientifique et interculturel. C'était un chantier d'à peu près une dizaine d'années.
Mais à quelle
entre,
époque,
hein, entre les Nations Unies et l'UNESCO. Et il a été, je prends mes lunettes parce que je ne le connais pas par cœur, ouais, encore, mais ça va venir. Il a été adopté en mars 2000.
Voilà, donc c'est très récent. Hein.
C'est très très récent, mais ça part de la charte de la nature, ouais, qui a été écrite en 1982.
Donc, il y a cette colonne vertébrale, qui est cette charte de la Terre, et puis bien sûr, votre travail, votre centre d'intérêt avec l'art, et du coup, l'idée, c'était de connecter les artistes aussi, et les confronter à ce texte.
Voilà, donc en fait on sait que toute la planète qu'on défend est très active, on va dire ressent très fortement l'interrelation entre eux-mêmes, leur vie quotidienne, ce qu'ils sont, ce qu'ils émanent, et le vivant et la Terre elle-même. Et donc on a envoyé des mails physiquement, hein, techniquement, on a envoyé des mails partout, surtout notre réseau qui est international, et on a reçu beaucoup de réponses, y compris de peintres, sculpteurs, dessinateurs très connus qui nous ont dit enfin merci, on peut prendre la parole hors de notre territoire, de notre champ d'action, ouais, qui est d'habitude la peinture, la sculpture, le dessin.
Donc vous avez donné la parole à des artistes citoyens, là, justement, qui avaient des choses à dire. Hein,
on a extirpé 12 questions de la Charte de la Terre, et tous les artistes qui ont voulu participer à ce premier volume ont choisi 1, 2, 3 questions, ouais, ou de répondre à l'ensemble des questions, ou carrément de nous envoyer des textes suite à la lecture de la Charte de la Terre, parce qu'ils étaient aussi, comme nous, le coup.
Ouais, mais alors le but c'était que ça fasse écho à leur propre travail également, puisqu'il y a toute une iconographie avec la qualité d'ailleurs qu'on connaît.
C'est le fond, là on touche vraiment au fond du livre, puisque avec ce travail, avec ce chantier, on s'est aperçu que tout l'art qu'on défend était très intimement témoin de ce qui se passait depuis, on va dire, 15-20 ans, ouais, en termes de surproduction, de faune, de disparition de la faune, de la flore, et ces sujets étaient devenus totalement centraux, en fait, dans leur travail. Donc il n'y avait pas pour nous à chercher particulièrement d'œuvres qui puissent être publiées et qui dialoguent avec le sujet, puisque de toute façon,
elle s'imposait
quoi qu'il arrive,
hein,
en sous-texte, les artistes dialoguent avec ces problématiques.
Ouais. Alors Anne, il faut en citer quelques-uns, parce que c'est aussi votre travail que
allez-y,
de faire connaître des noms d'artistes. On peut par exemple parler de Leo Ciaccio et Daniel Giannone, je ne sais pas si je le prononce bien.
Sont des garçons qui vivent ensemble, hein, Marie, ils sont ensemble, ils ont un chien, et c'est très important puisque c'est le sujet. Ils sont trois, toujours, ouais, sur leur tapisserie. Ils sont argentins et eux parlent vraiment de... eux sont très plugués avec l'environnement, la nature.
Le végétal. Hein.
Le végétal. Ouais. Ils sont tout à fait épidermiques, en fait.
Ouais. Il y a cet artiste qui s'appelle Mark Ryden.
Mark Ryden, hein, lui, c'est le pape du surréalisme pop américain. Lui est très intéressant. D'abord, sa peinture est sublime. Mm-hmm. Et ensuite, il est, comme beaucoup d'artistes américains, très engagés face au trust, oui, et à l'hégémonie des trusts. Donc lui a écrit un très joli texte, très engagé, très court, très impactant sur cet angle-là.
Ouais. Autre artiste, Liane Yupé, qui vient de Chine, celui-là.
Voilà, donc elle, c'est une fille.
Elle
est professeure en université et elle réfléchit sur l'hybridation. Ouais. Donc elle crée des toutes petites sculptures qui
sont des chimères au fond. Hein.
Ouais. Qui travaillent sur l'harmonie en fait des cellules entre l'animal et l'humain.
Voilà, le caméléon par exemple et le bébé hein, qu'on
oui,
va représenter ici. On lui doit aussi ce travail avec cet homme plongé dans un lac.
C'est un autre artiste et cet artiste-là.
Liu Di.
Voilà, Liu Di travaille sur, regarde, observe les conséquences de la surpopulation en fait, là où il est implanté.
Justement, est-ce qu'il y a des façons culturelles d'aborder cette question de l'environnement et qui sont propres à chaque continent?
Beaucoup, on a fait très attention d'avoir une grande représentation en fait de pays, non seulement de pays, mais de continents aussi.
On voit la diversité.
Il y a vraiment quatre thèmes très forts qui ressortent. D'abord la surpopulation.
Ouais.
Donc c'est la surpopulation et la surproduction.
Chez les Asiatiques.
Ensuite, les Américains, je l'ai dit, c'est vraiment le lobbying et les trusts, le pouvoir de décision chez un tout petit nombre de personnes. Et puis la technologie, en direction de quoi on va mettre au service notre pouvoir technologique et notre inventivité, notre magnifique inventivité. Et puis, à égale, je dirais, distance, notre capacité d'adaptation.
Oui.
Et notre capacité d'interréagir, l'interrelation que l'homme a de façon naturelle, en fait, avec la faune, la flore, le minéral.
Ouais. Et puis ces dernières lignes de cette charte de la Terre, faisant en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie, d'une ferme résolution d'atteindre la durabilité, de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix, et de l'heureuse célébration de la vie.
Il y a un principe actif en fait, s'il faut retenir quelque chose de la charte de la Terre, ce principe actif, c'est la responsabilité individuelle.
Ouais.
Et donc l'idée que, à nous tout seuls, dans notre tout petit territoire, on peut agir et être efficace.
Voilà, c'est ce hors-série A4 Degrees Art qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis également ce rendez-vous le 15 décembre prochain, vous serez au drugstore des Champs-Élysées entre 18h et 20h, Anne et Julien en dédicace avec plusieurs artistes qui figurent dans ce livre. Et puis pour ceux qui ont l'occasion de croiser Tator Tatoué, en ce moment c'est à Toronto je crois au Canada.
Non, c'est au Field Museum à Chicago.
Voilà, mais il y a beaucoup de dates dans le monde. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on parle de robots justement dans un instant.
Des colères givrées, des armées solitaires, et la cage dorée, toxique et poussière. J'ai l'air de quoi, moi, comme ça, avec mes idées funambules, placées au gaz rapport, à rouille sous l'abribus. J'ai l'air de quoi, moi, comme ça, je sais plus comment j'articule, réparer ou par tabac, courir le bord du terminus. Sur le lac salé, surface est fort téméraire. C'est un point de côté, une erreur de matière. Car ma cabossée par des rêves insulaires. Arborant nos baisers, nos distances polaires. J'ai l'air de quoi, moi, comme ça, avec mes idées funambules, glacées ou glacera pas, à rouille sous l'abribus. J'ai l'air de quoi, moi, comme ça, je sais plus comment j'articule, réparer ou bar tabac, pourrir le port.
Lac Salé, Minou sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Dans notre club, il est également question de robots avec Rodolphe Gélin. Vous êtes responsable de l'innovation chez SoftBank Robotics et co-auteur de L'homme est-il l'avenir? Le robot est-il l'avenir de l'homme avec Olivier Guilhem. Je vais un peu vite en besogne. C'est un document à la documentation française justement dans la collection Place au débat. Est-ce que vous avez d'abord l'impression que la perception aujourd'hui des robots a beaucoup changé de la part des citoyens? Est-ce qu'on les a bien intégrés aujourd'hui dans nos vies? Est-ce qu'ils sont sortis de la science-fiction?
Je crois qu'ils sont sortis de la science-fiction parce qu'on commence à voir des aspirateurs robots chez soi, des voitures autonomes, on entend de plus en plus parler, qui sont des robots. Et oui, les gens sont préparés à les voir arriver. Et sont même préparés de façon de plus en plus positive. Et on voit que nous, quand on présente nos robots sur des salons, les gens sont très contents, ils sont pas du tout inquiets, ils ont envie d'en voir, d'en savoir plus. Et quand on commence à en mettre dans des magasins, même dans un pays comme la France, où on a, paraît-il, une certaine réticence à avoir des robots. Les gens s'amusent beaucoup de voir des robots dans un supermarché bien connu, dans des gares. Voilà, ça leur fait pas du tout peur parce que ça fait au moins de la distraction et puis peut-être un service en plus que les gens sont pas prêts à leur disponibles pour leur rendre.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on voyait ça surtout du côté du Japon, hein, cette intégration vraiment du robot dans la société. Aujourd'hui, ça essaime un petit peu partout. Hein.
Oui, alors les Japonais, c'est une histoire qu'on aime bien raconter. Nous, SoftBank Robotics, étions à l'origine une société française, Aldébaran, et là, la société SoftBank, une énorme multinationale japonaise, est venue nous acheter, nous, parce qu'ils voulaient des robots. Donc, un géant japonais est venu s'acheter une société française pour faire des robots tout autour du monde.
Société française qui a donné naissance à Nao, par exemple.
À Nao, absolument.
Et puis, un peu plus tard.
À Pepper, donc pour les besoins de SoftBank. Donc, SoftBank est venu en nous demandant, pouvez-vous nous faire un robot pour mettre dans nos boutiques? Et on a développé Pepper pour eux.
Un extrait d'un film qui s'appelle iRobot, par exemple.
Entrée autorisée.
Dites-moi, docteur Calvin, quelle est exactement votre fonction ici?
Globalement, mes deux domaines sont la robotique de pointe et la psychiatrie. Mais je suis une spécialiste des interfaces hardware-wetware dans une dynamique de développement du programme d'anthropomorphisation de la robotique chez USR.
Et donc, quelle est exactement votre fonction?
Je fais en sorte que le robot ressemble à l'humain.
Et c'est pas plus clair comme ça?
Pas forcément, non.
Rodolphe Gélin, quand on fabrique des robots comme vous, est-ce que justement on a comme souci de le faire ressembler à l'humain absolument? Le robot humanoïde, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui?
Alors, c'est ce qui marche le mieux pour une intégration dans notre environnement qui est fait pour l'homme. Il y a toujours des marches à franchir, il y a des poignées de porte à manipuler, donc une forme comme la nôtre va aider le robot à s'intégrer. Et en plus, pour l'interaction machine, comme dit le docteur Calvin, c'est vrai que cette forme humanoïde est bien sympathique parce qu'en voyant un robot avec une tête, des yeux, des oreilles, vous savez que vous pouvez interagir avec lui normalement, alors que s'il y a un clavier, vous allez tout de suite vous sentir un peu mis à distance de cet objet-là.
Ouais. Est-ce que du coup, aujourd'hui, il y a un statut juridique du robot qui est très clairement posé?
Aujourd'hui, il n'y a pas un statut spécifique pour le robot. Le robot est un objet comme les autres, donc c'est un des points qu'on développe dans ce livre. C'est un objet au même titre qu'un marteau, qu'une chaise. Mais bien sûr, les questions vont se poser parce que ces robots vont devenir de plus en plus intelligents. Ouais. Ils vont apprendre des choses, ce qui fait que le robot que moi je vous aurais vendu, au bout d'un mois, deux mois, ayant vécu avec vous, il aura pris d'autres habitudes, il fera d'autres choses. Et donc, qu'est-ce que je peux comme garantir comme fonctionnement alors que le robot aura évolué auprès de vous? Donc ça, en effet. Il faut qu'on commence à préparer le cadre juridique, mais il y a des tas de sujets qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on tomberait dans un vide juridique, mais on a un peu de temps parce que la technologie n'est pas encore tout à fait au point. Mais c'est bien de travailler en parallèle au cadre juridique qui devra accompagner ça. Et on peut s'inspirer du cadre juridique qui est aujourd'hui utilisé, par exemple, pour les animaux. Quand vous avez un animal chez vous...
Qui est responsable, par exemple.
Si le chien, il mord un enfant, voilà.
Est-ce que c'est le maître ou le chien?
Ou est-ce que c'est le fabricant du chien? Est-ce que c'est l'enfant qui a énervé le chien? Voilà, donc il y a un cadre juridique pour encadrer tout ça.
Si une voiture écrase un piéton, une voiture sans chauffeur, qui est responsable? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle de la voiture ou le passager humain
non conducteur? Qui aurait dû faire
attention
à sa voiture, exactement. Donc tout ça, avec les voitures, en effet, la législation a commencé à se mettre en place. Et puis pour éviter toutes les questions, il y a des grands fabricants automobiles, Google, Mercedes, qui ont dit, écoutez, quoi qu'il arrive avec les voitures autonomes, nous sommes responsables.
Ah oui.
Et donc c'est à la fois un moyen de dire, arrêtez de vous poser des questions. question. Et aussi un moyen de dire, bah, vous voyez, on est responsable et notre machine va marche bien puisqu'on s'engage à être responsable.
Quoi, finalement, oui.
Et c'est ça la démarche qui est pour l'instant la plus saine en attendant que, après, les choses évoluent.
Anne, je vous vois réagir en fronçant les sourcils.
Non, parce que moi, j'ai trois interrogations, en fait, par rapport à l'évolution, le développement, on va dire, de cette industrie. La première, c'est à quel point elle reste polluante. La deuxième, quand on parle de robots, est-ce qu'on parle d'objets connectés à la maison? Auquel cas, j'imagine qu'il y a un centre de contrôle qui rentre chez moi et qui peut à distance manipuler ces objets dont normalement je dois avoir une jouissance totalement privée et intime, et déjà les deux.
Alors la pollution d'abord.
Alors, la pollution, c'est vrai que c'est un souci que, alors à notre échelle, alors on est pour l'instant une petite entreprise, on fait des petites séries et on essaye de faire au mieux déjà, mais c'est vrai que c'est à base de batteries, il y a pas mal de plastique, donc on fait bien attention à recycler tous les plastiques qu'on met dans la nature, mais l'objet en lui-même n'est pas d'un point de vue durablement correct. Il faut que, c'est aussi une industrie qui naît et qui va devoir bénéficier de tous les progrès que feront les autres technologies dans ce domaine-là. On regarde les piles à combustible, par exemple, pour mettre à la place des batteries lithium qui sont très polluantes. Bon, mais on va pas se mettre toutes les contraintes sur le dos en même temps. Donc, on réfléchit à utiliser toujours des techniques qui le soient et de travailler dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas notre priorité fondamentale.
Et sur les objets connectés, alors sur la domotique?
Et sur les, alors ça, c'est ça, en revanche, ça fait partie de nos priorités beaucoup plus proches parce qu'on sait très bientôt que le robot, comme les objets connectés, va être un objet qui, pour vous être utile, va devoir collecter de l'information sur vous. Pour pouvoir s'enrichir de cette information, apprendre et être de plus en plus efficace, il va falloir que cette information soit stockée, enrichie, consolidée. Et là, en effet, bah, il faut qu'on soit capable de vous garantir que les informations qu'on prend chez vous, elles restent bloquées à un endroit que vous pouvez contrôler. Après, il faut que vous sachiez aussi quelque chose, c'est qu'un robot qui apprendra simplement avec les données qu'il va collecter chez vous, parce qu'elles seront bien abritées, bien protégées, il va apprendre beaucoup moins vite qu'un robot qui partagerait des informations que tous les autres robots auront appris. Donc il faudra choisir un moment. Mon robot, c'est pas grave s'il apprend pas vite, mais il n'apprend qu'avec des données que moi je lui aurais rentrées. Donc je serai entièrement responsable de l'apprentissage de mon robot. Ou bien je suis prêt à ce qu'il apprenne plus vite, ou qu'il apprenne même des choses qui me surprendront. Et donc il peut aller par capillarité, aller partager sa connaissance et récupérer la connaissance d'autres robots.
Alors justement sur l'intelligence des robots aujourd'hui, est-ce que ça évolue très vite et de quelle intelligence on parle au fond?
Alors, c'est une intelligence qui avance très vite, mais sur des créneaux très très étroits. Et donc, quand vous regarderez un robot, et ben, il va être capable, un robot ou une intelligence artificielle, il va être capable de vous battre sur des trucs très très pointus, comme jouer au Go, jouer aux échecs, aux cartes, sur des diagnostics médicaux. En revanche, dès que vous sortez de ça, et ben, cette intelligence artificielle-là sera complètement perdue. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui, dans certains côtés, fait que ces machines ne sont pas si intelligentes que ça, c'est que sorties de leur domaine de spécialisation, d'hyperspécialisation, ils comprennent pas, ils ont beaucoup de mal à généraliser. Donc là, il y a des travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle, justement, pour que des concepts appris dans un domaine puissent être réutilisés dans un autre domaine, et pour que le robot apprenne de cette façon plus vite. Mais ça, c'est vraiment de la science quasiment fondamentale en ce moment.
Et greffer des neurones à un robot aujourd'hui, des chercheurs s'y essayent, qu'est-ce que ça nous donne vraiment?
Oui, alors aujourd'hui, là aussi, c'est de la recherche fondamentale. Je pense qu'en termes d'efficacité, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour rendre les robots plus intelligents, c'est juste pour voir ce que ça peut faire et aussi, au passage, mieux comprendre les neurones. Il y a une grande partie de la recherche robotique qui cherche à évaluer comment fonctionne l'homme. Et en essayant de modéliser dans un robot le fonctionnement de l'homme, on espère mieux comprendre l'homme. Donc je pense que ce genre de recherches-là vont plutôt dans ce sens-là, de la meilleure compréhension des neurones. Et qu'est-ce qui fait qu'un neurone est intelligent? Est-ce que c'est parce qu'il y en a un, parce qu'il y en a 10, parce qu'il est connecté avec les autres, parce qu'il est relié à des capteurs et à des actionneurs? Et si on ne met pas les actionneurs, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est cette recherche mutuelle, en fait. Comment les robots doivent-ils réfléchir et comment notre cerveau réfléchit-il qui fait tout le sel de l'aventure.
Et l'émotion, le robot émotif, émotionnel? Même chose, est-ce que là on a avancé dans cette voie ou pas?
Alors là encore on avance parce qu'on est capable de démontrer des choses de plus en plus spectaculaires. Des robots qui vont détecter que vous êtes gay et puis qui va lui-même mimer la gaieté. Mais le robot sera lui-même toujours qu'un acteur.
Voilà.
En ce moment, que vous êtes joyeux, je pensais que vous êtes gay, oui. Que vous êtes homosexuel. Je vous avais dit donc, ils sont drôlement avancés maintenant.
Ça, c'était notre programme secret.
C'est ça.
Il y a une série là qui s'appelle Westworld où on voit des robots qui sont des acteurs. Alors, je ne sais pas ce que le monde du théâtre en pense, mais voilà, on voit avec cette série que finalement, le boulot d'acteur, les robots peuvent
exactement.
Le faire très très bien.
Et c'est une question que je voulais poser à Elisabeth Bouchon. Est-ce que vous aimeriez mettre des robots sur les planches de votre théâtre de la Reine Blanche?
J'adorerais. Et d'ailleurs, c'est arrivé au cours du Festival des Idées qui est organisé par l'Université Sorbonne Paris Cité et que nous avons accueilli autour du thème « Être machine ». Donc, c'est une problématique.
Nao a déjà fait de la scène, hein. Il a dansé déjà.
Avec Biancali, il y avait un spectacle qui a eu pas mal de succès, en effet.
Ouais. Et Angelo Corda, mettre en scène un robot, ça vous amuserait, franchement?
Ouais, c'est vrai. Pas mal. Ouais.
Je vois vos yeux qui commencent à pétiller.
Ouais, ça serait rigolo, en tout cas.
Bon, écoutez, voyez avec Rodolphe Gélin, vous avez le bon interlocuteur, en tout cas, près de vous, pour essayer peut-être de tenter cette aventure. En attendant, le robot est-il l'avenir de l'homme? C'est place au débat dans la documentation française, ce livre que vous publiez, Rodolphe Gélin, avec Olivier Guilhem. Ben justement, dans un instant, on parle théâtre et théâtre scientifique, évidemment. She's my woman of gold, she's not very old, she's my woman of gold, she's not very old, I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. But she ain't a witch, and I love the way she twitch, She ain't a witch and I love the way she twitch, I'm a labor of love in my Persian gloves, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Two-penny prince and I give a hot love Take down me one Hot Love, c'était T-Rex à l'instant.
Le club carré sur France Inter.
Elisabeth Bouchot, vous êtes physicienne et directrice du théâtre de la Reine Blanche. Et à vos côtés se trouve Angelo Corda, auteur et metteur en scène d'une pièce justement que vous accueillez en ce moment dans votre théâtre, Mileva Einstein. Racontez-nous d'abord comment vous êtes devenue directrice de ce théâtre qui propose donc une programmation axée sur la science à Paris dans le 18e arrondissement.
Eh bien, c'était un vieux rêve, bien sûr, d'avoir un théâtre, parce que je fais du théâtre depuis plus de 30 ans. Je suis comédienne. Ouais. Je suis aussi auteure de théâtre, d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, avoir un lieu, c'est évidemment le rêve pour toute personne qui a envie de faire sa programmation, de monter sur scène, mais pas seulement, d'accueillir aussi des œuvres qu'on aime. Et donc, ça a pu se réaliser seulement il y a 2 ans. J'ai racheté le bail de la Reine Blanche.
Ouais, voilà. Et ce théâtre, donc, que vous dédiez véritablement à la science ?
Que je dédie à la science, pas seulement pour plusieurs raisons, mais parce qu'il est difficile de trouver des œuvres de qualité parlent de science.
Ouais.
Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et ce que j'ose espérer, c'est que le fait que la Reine Blanche existe va susciter des envies.
Ouais.
Ce qui a déjà été le cas, d'ailleurs, nous avons mis, et ça n'est pas sans rapport avec les robots, nous avons monté au printemps dernier La chair et l'algorithme, qui est une pièce de Jean-Louis Boer, et qu'il a écrite un peu parce que la Reine Blanche existe et qu'elle était capable de l'accueillir.
Donc, on n'oublie pas que vous êtes physicienne quand même à la base, hein ?
Absolument, je suis physicienne.
Vous travaillez toujours dans le domaine de la physique ?
Oui, je suis à mi-temps à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, pour être plus précise. Et en fait, je casse des matériaux mous, des matériaux qui sont un peu solides, mais presque des liquides.
Vous cassez du mou, alors. C'est pas banal, quand même. Hein.
Ah non, non, mais c'est ça qui est amusant. Hein.
Ouais.
C'est
que... Et vous en faites quoi, alors ?
J'en fais quoi de ces matériaux, je les observe, je les casse. Moi, tout ce que j'ai entre les mains, je le casse.
C'est vrai, vous êtes payé pour ça en plus.
Et vous les recyclez après, j'espère.
Bien sûr, ce sont des matériaux tout à fait inoffensifs et recyclables, des gels en milieu aqueux, donc il n'y a aucun problème
là-dessus. Vous cassez pour la recherche fondamentale ?
Je casse pour la recherche fondamentale, mais pas seulement. Bien sûr, les matériaux mous existent dans l'industrie un peu partout. Ce sont les gels, les yaourts... le ketchup, les cosmétiques, mais aussi c'est un bon modèle pour les tissus humains, et en particulier les tissus artificiels. Donc savoir si une peau synthétique, par exemple, va se fissurer, quelles sont ses propriétés mécaniques, c'est aussi extrêmement important.
Voilà, petit coup de zoom sur votre activité, en dehors donc du théâtre de la Reine Blanche, théâtre dans lequel on a vu il n'y a pas longtemps Marie-Charlotte Morin.
Absolument.
Qu'on a reçu d'ailleurs à son micro, ancienne lauréate de ma thèse en 180 secondes, et qui a quitté le monde de la science pour vraiment faire du théâtre aujourd'hui.
Absolument, mais je l'ai repérée comme ça, Marie-Charlotte, j'ai vu sur Internet sa prestation lors du concours ma thèse en 180 secondes, je l'ai trouvée formidable.
C'est vrai.
Je lui ai écrit, elle m'a dit, ça tombe bien, j'écris un spectacle de théâtre.
Voilà, donc, vous aviez senti évidemment ses capacités.
Elle est tout à fait exceptionnelle, c'est une comédienne exceptionnelle.
C'est vrai, absolument, et qui a fait vraiment un travail remarquable dans ce spectacle sur la théorie de l'évolution, parce qu'elle a fait à la fois un travail pédagogique mais pas rasoir.
Absolument, très amusant, on rit tout le temps. Et d'ailleurs, on accueillera Tout le monde descend à nouveau à la saison prochaine.
Voilà, c'est le titre de ce spectacle. Mais en attendant, on peut aller applaudir Mileva Einstein, Angelo Corda. Vous êtes l'auteur et metteur en scène de cette pièce, donc en ce moment jusqu'au 30 décembre au Théâtre de la Reine Blanche. Comment s'est fait la rencontre justement avec Elisabeth ? Est-ce que vous aviez entendu parler de ce théâtre ?
Le théâtre était vraiment nouveau. Enfin, en tout cas, la direction avec Elisabeth venait de se faire.
Ouais.
J'en avais entendu parler, oui. Et c'est un des comédiens qui joue dans la pièce qui m'a fait rencontrer Elisabeth.
Qui est un merveilleux comédien qui s'appelle Marc-Henri Lamande.
Marc-Henri Lamande.
Ouais. C'est compliqué de faire du théâtre scientifique aujourd'hui ou à base de thématiques scientifiques ?
Oui, il y a peu de lieux pour cela. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire peur.
À qui ?
Au public, aux gens. Ça, c'est pas un sujet très abordé. Et c'est pas. Oui, c'est vrai que ça peut. Ça
pouvait faire peur. Je pense qu'à la fois, ça fait peur et il y a une véritable appétence du public pour ces thématiques. De pénétrer ce monde où on a dit finalement à 99% de la population qu'ils étaient illégitimes à pénétrer le monde scientifique. À l'écouter, à le comprendre. Et je crois que ça fait du bien aux gens de voir que c'est tout à fait possible de l'apercevoir, de rencontrer finalement ce monde scientifique.
D'où l'idée aussi peut-être pour vous, Angelo Corda, de prendre des personnalités emblématiques de la science, comme Albert Einstein, ou un peu moins connu, sa femme, dont il a divorcé d'ailleurs, oui. Mileva Einstein, et pour en faire quoi, un thriller théâtral ?
Oui, voilà, c'est un thriller scientifique, on va dire. C'est une tragicomédie sur fond de thriller scientifique. Ouais.
On va en écouter un extrait, puisqu'on a pu avoir un enregistrement de votre spectacle.
Milady, laissez-moi vous expliquer.
Il n'y a rien à expliquer.
Ah, mais si, au contraire, il y a tout à expliquer.
Alors ?
Vous m'intimidez.
Moi ? Allons, n'allez pas utiliser des mots que vous pourriez regretter.
Non, c'est bien vrai ce que je vous raconte.
Allons, pas de ça avec moi. Si je vous intimidais tant que vous le dites, vous ne seriez pas que derrière Albert. Vous seriez un peu plus curieux à mon propos. Vous me poseriez des questions, je ne sais pas.
Mais je n'attendais que ça. C'est vous qui m'avez enjoint à être patient, à n'interroger que votre mari. Déjà, je trouve le fait que vous soyez une femme, comment dirais-je, debout, et que vous participiez à ces travaux, tout à fait remarquable.
Bah, n'exagérons rien. Cela n'a rien d'extraordinaire.
Quand même. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas récolter les lauriers de votre travail. Ne me dites pas que c'est par amour pour votre mari. Je ne vous croirai pas.
Mileva Einstein, deux espions, Mileva et Albert Einstein. Ce sont les personnages justement de cette pièce. Oui. Pourquoi vous avez envie de faire ce travail autour de la personnalité de Mileva Einstein ?
Alors moi, à la base, je suis assez féru de cosmologie, d'astrophysique, et je cherchais à écrire une pièce sur le sujet. Comme ce n'est pas simple, et je voulais pas faire quelque chose de didactique, je me suis intéressé plutôt aux gens qui la faisaient,
oui.
Et aux personnages, et du coup, Albert Einstein s'est imposé. Mais il y a eu beaucoup de choses sur Albert Einstein, tout le monde, même des spectacles déjà. Et j'ai fouillé sa vie, et c'est vrai que sa femme qui était restée dans l'ombre m'a tout de suite intéressé.
Ouais, femme dont il a divorcé d'ailleurs, oui. Quelle personnalité avait-elle ?
Alors en fait, c'était une femme très très brillante, première femme à être intégrée dans les écoles où elle passait, parce que c'était des écoles réservées aux hommes, scientifique très brillante qui a participé aux travaux de son mari, ouais. D'Albert.
Et donc dans l'intrigue, le Vatican s'en mêle.
Tout à fait.
Et pourquoi justement ? Parce que là, on repense évidemment à l'Inquisition, à Galilée, au grand procès fait aux scientifiques justement, ouais. Mais là on est dans une autre époque, on est au 20e.
Et oui, et ça perdure. En fait, je suis tombé sur un article en Italie, je vivais en Italie, et non censuré bizarrement par le Vatican, parce qu'ils censurent beaucoup de choses, sur cette époque.
Oui.
Le Vatican est un État comme un autre et possède donc un service d'espionnage.
Oui.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, comme toutes les nations d'ailleurs, surveillaient beaucoup les travaux d'Albert Einstein, on avait un peu peur, et le Vatican de même.
Donc ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'était un fait oui. De la vie d'Albert Einstein, c'est cet espionnage organisé par le Vatican. Mais pourquoi ? Parce qu'on avait peur de quoi ? Des principes de la théorie de la relativité générale, par exemple ?
Exactement. En fait, ils avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Mm-hmm. C'est l'inconnu qui leur faisait peur.
Ouais. Élisabeth Bouchot, ça vous a intéressé, évidemment, ce sujet ?
Oui, bien sûr. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant de bâtir une... comme dit Angelo, une tragicomédie, parce qu'on rit beaucoup aussi pendant cette pièce. Et ça permet, justement, on disait tout à l'heure que le public a peut-être peur des sujets scientifiques, ça permet de démystifier finalement ces sujets scientifiques, de les rendre abordables, et je crois que ça c'est extrêmement important. Mmh.
C'est chez SoftBank qu'il faudra envoyer des espions maintenant, voir ce que vous faites dans le domaine de la robotique, Rodolphe Gélin, parce que c'est là que ça se passe en fait. Hein.
Nous soupçonnons qu'on ait déjà sans doute quelques espions de sociétés qui regardent comment ça se passe pour voir...
Qu'est-ce qui les intéresse en particulier à votre
avis ? Bah nous, on est quand même les premiers à essayer de mettre des robots sur le marché grand public. Mmh. Et donc, ils sont très curieux de savoir. Je pense qu'il y a des tas de concurrents qui sont prêts dans le monde à faire ça aussi, mais qui attendent de voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour se nourrir de ce qui marche pas et se nourrir de ce qui marche. Et puis démarrer, dès qu'on commencera à envahir le marché, je pense qu'il y a des tas de concurrents qui vont arriver en même temps que nous.
Voilà, ça s'appelle Mileva Einstein, avec cette pièce à voir en ce moment donc au Théâtre de la Reine Blanche. Et regardez bien la programmation de cette scène dédiée à la science, ces oui, deux bis c'est, passages
est-ce que
ruelles.
Je peux dire que le prochain spectacle sur la science va concerner les méthodes de procréation. Mmh. Ça s'appelle Ceux qui naissaient, ça commencera le 4 janvier.
Voilà, ces deux bis passages ruelles dans le 18e arrondissement. Allez sur le site du Théâtre de la Reine Blanche pour avoir toute la programmation. En attendant, le robot est-il l'avenir de l'homme à la documentation française. Et puis ce hors-série de A, Four Degrees Art, c'est aux éditions Anne, vous me rappelez le nom de votre éditeur ?
Ankama 619.
Voilà, merci beaucoup, passez un bon week-end. Ainsi s'achève ce club de la tête au carré. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec la fiction du vendredi dans Affaires Sensibles. Le thème d'aujourd'hui, UVA 1988. Merci à Anne-Laure Cochet. Passez un excellent week-end et à lundi.